Et bonjour à tous. Donc j'avais initialement pensé intervenir en français, ce que je vais faire. Par contre, les diapos sont-elles en espagnol? Bon, vu que de toute façon l'agrégation est soit une composition en français, soit en espagnol, je pense que c'est intéressant de mélanger les deux langues. Préciser aussi très rapidement donc, ce que je vais présenter ici, c'est plutôt dans l'idée de faire une synthèse assez générale. Donc, à la différence de ce qui s'est fait ce matin, je ne vais pas faire une étude de cas micro, plutôt un panorama un peu général, toujours en pensant à la logique du concours. Et aussi, donc, je vais répéter des choses que j'ai déjà dites ailleurs, hein, puisque c'est avant tout basé sur mon travail de doctorat et aussi de publications plus récentes issues de ce travail de doctorat. Bon, j'en ai quelques-unes ici. Et la présentation que je vais faire ici, en fait, c'est le produit d'une présentation que j'ai faite il y a quelques semaines à Santiago du Chili, suite à les publications donc, de ma thèse en espagnol. Donc c'est une sorte de synthèse générale sur laquelle ensuite on pourra revenir en détail sur cette histoire des mil días que estremecieron al mundo est assez finalement évidemment complexe, varie si on, d'entreprise en entreprise. Donc là je vais vraiment faire, j'insiste, un panorama assez général issu de ce travail de thèse et de recherche plus récente, en sachant qu'une grande partie de mon travail était aussi basée sur de l'histoire orale, donc des entretiens, plus classiquement du travail d'archives et de revues de presse. Bon, ce que je voulais détailler ici, c'était donc cette relation entre le mouvement ouvrier et les organisations de la gauche révolutionnaire, et avec pour centre, comme peut-être problématique d'articulation, cette notion très très forte au Chili, mais dans toute la région, de poder popular, de pouvoir populaire, qui va être agité par une partie de la gauche chilienne, mais aussi qui va être incarné finalement par la classe ouvrière, par le mouvement ouvrier, et par une partie du mouvement syndical mobilisé. Donc j'ai pas mal de diapos, donc il y a certaines que je vais passer rapidement. Une évidence, c'est que la notion même de pouvoir populaire est complètement polymorphe. On pourrait en discuter pendant des heures et des heures, puisqu'il n'y a pas eu une définition de poder populaire. Ça dépend, elle est incarnée historiquement à des moments donnés, dans des conjonctures différentes, et même dans des conjonctures spécifiques comme celle du Chili des années 70, plusieurs organisations en avaient une vision tout à fait différente, notamment dans la question clé de la relation au gouvernement Allende et l'insertion ou pas dans la voie chilienne au socialisme, donc le projet d'Allende et la possibilité d'une voie institutionnelle et pacifique au socialisme. Donc les concepts de cielago, ce qui est notamment avancé en Argentine, me paraît assez intéressant, puisque c'est l'idée que le pouvoir populaire peut être aussi bien pájaro que roedor, donc il peut être plusieurs choses en même temps, comme un cielago. Là aussi, je reviens rapidement, je pense que c'est assez connu, la bataille du Chili, pour reprendre l'image de Horacio Guzmán, l'excellent documentaire essentiel si on veut comprendre cette période. C'est 1000 jours donc, qui ont marqué non seulement l'histoire chilienne, mais de l'ensemble de l'Amérique du Sud. C'est en même temps une bataille de la mémoire. Donc quand on revient sur cette période-là, il y a une bataille historiographique qui est assez dure, assez tendue. Moi, mon option, c'était justement de revenir un peu à la base. Certains, comme Peter Wynne, le grand historien états-unien qui a travaillé cette époque, parlent de révolution par en bas ou de socialisme par en bas. On n'est pas obligé de partager ces concepts-là, mais l'idée qu'il faut... C'est intéressant de revenir, qu'est-ce qui se passait dans les entreprises, dans les quartiers, à la base de la société pendant ces 1000 jours de la voie chilienne au socialisme, alors qu'il y a eu pendant très longtemps une historiographie dominée par l'histoire des partis, l'histoire du gouvernement, l'histoire des institutions, l'histoire aussi de l'intervention impérialiste, mais finalement avec un acteur qui était un peu en retrait, derrière le miroir, alors qu'il est au centre finalement de cette expérience. C'est-à-dire les classes populaires mobilisées, les syndicats, les poblaciones ou même les paysans. Dans mon cas, je travaille sur un espace urbain centré sur les classes ouvrières organisées. Donc la notion de revolución desde abajo, qui participe de cette rénovation historiographique, avec ses limites, on pourra aussi en parler. Parfois, on a tendance, moi j'insiste beaucoup sur abajo et arriba, c'est-à-dire quelles sont les articulations qu'il y a eu entre gauche et mouvement populaire, entre classe ouvrière et le gouvernement, entre les partis et leur base sociale, mais aussi les tensions, voire la séparation à un moment donné. Bon, je passe rapidement. Bien entendu, l'élection d'Allende pour la gauche chilienne, en tout cas celle qui se reconnaît dans l'unité populaire, c'est-à-dire les deux grands partis historiques, le PC et le PS. Rappelons que le PC chilien à l'époque est un des premiers partis communistes d'Amérique latine, mais aussi de la planète, en termes de proportionnel, de représentativité de la population. C'est un parti de masse. Cette élection-là, bien qu'elle soit minoritaire dans les urnes, c'est un tonnerre pour les classes dominantes chiliennes, mais aussi pour la gauche elle-même, qui finalement croyait peu en sa victoire, et quand elle gagne le gouvernement, elle est face à un défi extrêmement fort. La voie chilienne au socialisme, ça aussi c'est assez connu, c'est un pari que fait l'aliendisme, on pourrait dire, dans le cadre de la guerre froide interaméricaine, la possibilité d'une transition par étapes, graduelle, au socialisme, la possibilité que la Constitution permette, y compris cette transition, c'est-à-dire il y a un fort légalisme, la gauche chilienne est marquée au fer rouge, d'une certaine manière, par une vision très légaliste, la possibilité d'utiliser tous les espaces institutionnels pour commencer à avancer vers le socialisme, et la fameuse thèse de du constitutionnalisme des forces armées. Les forces armées devaient respecter le suffrage universel, ça aussi c'est extrêmement fort dans la conception aussi bien d'Allende, mais aussi et surtout du Parti communiste chilien, qui influence très fortement l'unité populaire, qui est le pilier pour Allende, plus que son propre parti, le PS, qui est un parti mouvement, traversé de multiples tendances, et qui est beaucoup moins sûr d'ailleurs pour Allende lui-même, en termes de gouvernabilité. Puisque je voulais travailler gauche révolutionnaire au mouvement ouvrier, il faut aussi rappeler qu'il y a un espace à gauche ou extra-parlementaire, notamment le MIR, c'est pas le seul, il y a d'autres petites organisations révolutionnaires, mais c'est le MIR qui va le plus polariser la critique à gauche, on va dire, au sein de la gauche révolutionnaire, avec une position, comme on le sait, tout d'abord de défiance face à ce qu'il qualifie de réformisme, le projet d'Allende, ou comme projet anti-impérialiste démocratique, mais pas révolutionnaire, l'unité populaire, mais finalement un MIR aussi qui évolue dans le temps et qui va devenir à certains moments comme un appui critique à Allende. Donc là aussi, on pourra y revenir, le MIR d'une défiance totale passe à une position plutôt d'essayer de polariser ce qu'était cette coalition gouvernementale, l'unité populaire, et de jouer sur les tensions internes entre progressivement les deux pôles qui traversent le gouvernement Allende et ses partis. Miguel Enriquez, l'un des leaders assassiné en 1974 en lutte contre la dictature. Au cours de mon travail de thèse, j'ai pu déterminer trois respirations, trois discordances des temps, on pourrait dire, si on reprend les termes de Daniel Ben Saïd, de l'unité populaire, trois moments d'émergence de ce que va être le pouvoir populaire. Un premier moment d'âge d'or en termes du projet d'Allende, de fort soutien populaire, des réformes qui marchent, on nationalise le cuivre avec l'appui de l'ensemble du Congrès, vraiment on met en place une participation dans tout le secteur nationalisé des travailleurs. Donc, je ne vais pas y revenir en détail, mais ça j'ai beaucoup travaillé. Il faut comprendre que le pouvoir populaire, c'est pas seulement les cordes industrielles dont je vais parler, c'est aussi des formes qui sont, dans un premier temps, développés par le gouvernement lui-même. Les RAP, donc les Juntas de Abastecimiento y Precios, dans le secteur de l'abastecimiento, la participation dans les entreprises étatisées, nationalisées, avec tout un système de co-gestion de ces entreprises, extrêmement intéressant, qu'il faut analyser entreprise par entreprise, certaines fois ça marchait, d'autres c'était extrêmement bureaucratisé. Mais une transformation du rapport au travail pour la classe ouvrière, du rapport à la hiérarchie, puisque la classe ouvrière commence à participer directement à l'administration de ces entreprises, avec toujours une majorité de blocage de l'État. On pourra y revenir, mais c'est un moment extrêmement important pour le mouvement ouvrier. Et ensuite, deux autres moments, un moment de radicalisation, débordement, on pourrait dire, notamment à partir d'octobre 72, surgissent des formes alternatives d'organisation non prévues par les directions syndicales, non prévues par la direction partisane, MIR y compris, non prévues par le gouvernement, mais qui finalement défendent la voie chinoise au socialisme, mais en même temps la débordent complètement en revendiquant une extension de l'ère nationalisée, en revendiquant une participation beaucoup plus large des travailleurs et du mouvement organisé dans la direction de cette voie chilienne, et donc avec l'apparition de ce que j'ai appelé des formes de pouvoir populaire constituant, donc qui surgissent par en bas et commencent à questionner les limites même du projet de l'unité populaire. Et un troisième moment d'extension, de reflux, de répression avec le coup d'État. Le moment de la nationalisation du cuivre, rappelons-le quand même, c'est un moment d'affrontement directement avec les États-Unis, un moment aussi d'unité nationale d'une certaine manière, et de grande mobilisation du peuple chilien. Thomas Mulan, le sociologue, nous dit l'unité populaire, c'était un moment de fête et de drame. Bon, mais la fête, là, elle était très présente. Ces premières années, c'est un moment de fête révolutionnaire extrêmement fort, de mobilisation, d'enthousiasme. Moi, je n'ai pas mis autant de photos que j'aurais voulu, mais il faut vraiment voir la joie des travailleurs dans les entreprises, dans la rue, dans les quartiers. Une extension par capillarité à tout le corps social de ce moment d'ébullition, de transformation sociale sur le plan culturel, sur le plan des relations, des rapports sociaux de sexe, des rapports sociaux de travail, etc. Moi, ce qui m'a intéressé en particulier et que je vais développer ici dans les quelques minutes qui me restent, c'est l'histoire des cordons industriels qui aujourd'hui est beaucoup plus connue, qui dans les années 2000, quand j'ai commencé à le travailler, était plutôt une sorte de mythe très fort au sein de la gauche révolutionnaire latino-américaine, mais aussi française par exemple. Moi, je suis arrivé avec mon propre bagage, plein de mythes sur les cordons. À fur et à mesure que j'ai fait ma recherche, plusieurs sont tombés, peut-être heureusement d'ailleurs. Moi, j'arrivais avec la vision quasiment du soviet chilien. Et en fait, je me suis rendu compte que l'histoire des cordons était beaucoup plus riche finalement, mais aussi beaucoup plus contradictoire, avec de nombreuses limitations, tensions. Mais ces cordons en soi, donc ces ceintures industrielles qui existent dans les grandes villes de Santiago, il y a une géographie urbaine, industrielle, deviennent à un moment donné à ce que je propose d'appeler des cordons pour soi. Bon, c'est le parallèle avec la sans-soi pour soi est assez clair, je pense, de Marx. Donc une coordination territoriale qui devient inconsciente, organisée, qui surgit de la classe ouvrière, de son mouvement syndical, avec parfois des difficultés. Il faut rappeler que la grande centrale syndicale, la confédération de l'époque, c'est la CUT, Central Única de los Trabajadores, qui naît en 1953. La CUT, au début, réagit assez négativement face à ces tentatives de coordination territoriale, parce qu'elle pense que ça peut diviser l'appareil syndical, l'affaiblir, ou alors elle propose très rapidement de transformer ces cordes industrielles en une base communale. En fait, les cordes industrielles, ils naissent essentiellement en octobre 72, quand la bourgeoisie se met à l'école de Lénine, comme le disait Matlar à l'époque, c'est-à-dire les classes dominantes essaient de bloquer le gouvernement là où ça fait mal, c'est-à-dire par l'économie, puisqu'ils n'ont pas réussi à le faire au niveau du Congrès. Donc il y a une grève, mais qui est patronale. Patronale, taxi, transporteurs, camioneros, petite bourgeoisie libérale, etc., etc. Bon, ça, c'est très connu, hein, si vous voyez le documentaire de Patricio Guzmán. Et la réponse intéressante, c'est cette création des cordons industriels. Il y en a une vingtaine à Santiago. Les plus connus sont Cordón Cerrillos Maipú ou Cordón de Cuña Maquena. Au niveau national, c'est plusieurs dizaines de coordinations territoriales qui naissent, qui vont signifier l'auto-organisation d'environ 100 000 travailleurs, sur les chiffres, on peut discuter beaucoup, plus de 30 000 ouvriers à Santiago, qui finalement disent qu'il faut qu'on se défende, et pour se défendre, il faut qu'on soit unifié sur un plan territorial. Et donc, d'entreprise à entreprise, de syndicat à syndicat, que ce soit une petite entreprise, une grande entreprise, qu'on produise de la pasta diente, du dentifrice, ou qu'on soit un sous-traitant du cuivre, finalement, notre zone territoriale nous permet de nous unifier pour essayer de mettre en place la défense de l'outil de production et dans certains cas la récupération de cet outil de production et quelques jours, parfois quelques heures, le remettre à producir. Là aussi, moi j'avais l'image vraiment d'une occupation généralisée avec un outil de production qui repartait. En fait, il y a plus de plusieurs entreprises où il n'y a pas de reprise de la production seulement. On occupe le lieu de travail pour essayer de le défendre face aux attaques de Patria Liberta, l'extrême droite, ou face à la tentative du boycott patronal. Ce qui est intéressant, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette histoire de récupération de l'espace en même temps qu'on récupère l'outil de production. Donc avec Jean-Baptiste Thomas, tout à l'heure, on a vu un autre cas en Argentine, hein, comme il y en a plusieurs dans ces périodes-là, de libération ouvrière, on pourrait dire, d'une notion très très forte de récupération de l'outil de travail et en même temps... territorial libre d'exploitation, ça parle clairement cette notion de libération d'exploitation ou d'une domination. La fensa definitivamente en manos de sus trabajadores. À chaque fois, on est dans une relation de tension avec les partis de l'unité populaire avec Allende. Quand on récupère ces entreprises, très souvent, c'est en dehors du programme de nationalisation d'Allende, qui était limité à 91 entreprises. À la fin de la période, c'est plus de 340, voire 400 entreprises qui ont été occupées et parfois intervenues sous pression de cette occupation, intervenues par l'État. Donc là, il y a un jeu entre le conflit de classe et le projet politique du gouvernement sur la délimitation et l'extension du secteur nationalisé. Ceux qui sont en dehors, la grande majeure partie des travailleurs chiliens, quasiment 90% de la classe ouvrière est en dehors du programme de nationalisation, fait pression pour dire ben, nous aussi on veut la cogestion des entreprises, nous aussi on veut avoir accès aux conquêtes sociales que ça signifie, et nous aussi on va être au cœur du projet de Huaychinango socialiste. Mais à chaque fois que ces entreprises sont occupées, ben, ça met en tension les négociations d'Allende avec la démocratie chrétienne, avec des secteurs, des classes dominantes chiliennes. Donc il y a toujours cette tension qui est très très forte. Bon là on voit Cerrillos Maipú, on voit très clairement toutes les petits triangles, ce sont des entreprises, vous voyez la concentration industrielle qu'il y a dans certaines communes, qui donne un espace en soi à ces futurs cordons pour soi. Le plus fort, le plus organisé a été Cerrillos, dans la commune la plus ouvrière du pays, Maipú. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à des répertoires de mobilisation tout à fait classiques, hein, si on voit les répertoires que propose Chartilly, la barricade, la manifestation, l'occupation de l'entreprise. On est dans un schéma classique du mouvement ouvrier industriel des années 70, mais avec aussi une forte créativité ouvrière qui accompagne tous ces processus de pouvoir populaire, de pouvoir ouvrier. La consigne elle-même de créer poder popular, d'une certaine manière, surgit de l'extérieur et est animée très fortement par le MIR, qui, dès les années 71, insiste sur cette notion de poder popular, insiste sur la nécessité d'organiser des commandos communaux, donc qui dépasse la classe ouvrière elle-même pour englober toutes les classes subalternes dans un espace communal qui irait vers la figure d'un État alternatif, en rupture avec l'État bourgeois, en rupture avec le Parlement bourgeois. Je passe rapidement. Un autre élément sur lequel je voulais insister, c'est cette question des territoires. La territorialisation des conflits de classe et des conflits ouvriers à cette époque sont très très forts. Là, c'est très schématique, mais en rouge, on voit comment les voies de communication sont aussi celles de l'organisation des cordons industriels. Comme il y a aussi, pour toute une partie du barrio alto, là où sont les élites et les classes dominantes, une sensation d'encerclement qui monte hein, à mesure qu'avance l'unité populaire. La presse, el mercurio, la prensa, la presse de l'opposition commence à parler de l'étranglement du centre par les barrios obreros, les cordons industriels, donc avec une peur des classes dangereuses qui est tout à fait classique aussi dans l'histoire, mais qui est assez intéressant puisqu'elle s'incarne très fortement sur plan urbain. Il n'y a pas longtemps, il y a un bouquin collectif qui s'appelle « Les lieux de la colère » qu'a coordonné notamment David Garibay, qui est de Lyon 2. Bon, on travaille beaucoup cette notion, comment les lieux, la territorialité des luttes, comment l'espace est une composante essentielle de la lutte sociale et de la lutte de classe. Avec des expériences très connues comme Campa Metonneuve à Havana, où le MIR là est extrêmement fort, où on a quasiment un village autogéré dans le cœur de Santiago, autogéré partiellement parce que le MIR aussi a une conduction très verticale dans son mode de penser la politique, l'avant-garde révolutionnaire, mais en même temps avec des formes d'organisation extrêmement intéressantes où il y a l'Assemblée Générale est au cœur de la conduction de ce quartier, comme elle est au cœur de ce que sont les cordes industrielles ou de ce que le MIR appelle les commandos communaux de travailleurs. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma qu'a présenté Jean-Baptiste tout à l'heure. Là, il y a des parallèles hein, sur les commissions ouvrières, les assemblées, les conseils de délégués, les commissions, commission communication, commission autodéfense, commission production, etc. Très souvent, je vais bientôt terminer, entre ce que j'appelle les cordons rêvés et les cordons réels, il y a une distance très grande. Si vous lisez la presse, les cordons industriels sont extrêmement démocratiques, horizontaux, ils englobent l'ensemble de la classe ouvrière. La réalité est beaucoup plus difficile. Très souvent, ce sont surtout les dirigeants syndicaux qui dirigent le cordon, pas toujours en relation avec une assemblée autogérée, on va dire. Et aussi, les partis politiques, eux, tendent à intervenir parfois par en haut, au sein des cordons, en court-circuitant le potentiel autogestionnaire de ces cordons. Mais en même temps, et là c'est contradictoire, les partis sont au cœur de l'animation de ces luttes. Et ça, c'est ça qu'il faut bien voir. Sans le PS, sans le MIR en particulier, les cordons industriels n'existaient pas. Le PC a réagi négativement dans un premier temps face aux cordons, ensuite il va les intégrer. Donc il y a un espace qui est complètement hétéronome en termes de partis et classes. Les partis alimentent les mobilisations de classe ouvrière, et la classe ouvrière est au cœur des préoccupations des partis de la gauche. De la gauche et de la démocratie chrétienne. Là aussi, il n'y a pas oublié, la troisième force au sein de la CUT, c'est la démocratie chrétienne qui, elle, est en opposition au projet d'alliance. Il y a des expériences à Santiago, mais aussi en province, on pourrait y revenir. Par exemple, à Constitución, une toute petite ville du sud, elle est occupée complètement pendant 2-3 jours, et ils vont destituer le maire, l'intendant, et contrôler complètement la ville. Là encore, l'espace urbain est au cœur de ces mobilisations, avec progressivement un débat extrêmement dur au sein de la gauche sur la place de ce pouvoir populaire. Est-ce que c'est un pouvoir populaire qui doit être soumis ou intégré complètement au projet de voie chilienne au socialisme, de voie institutionnelle au paraître au socialisme? Est-ce que ce pouvoir populaire doit incarner au contraire un dépassement et commencer donc à incarner une nouvelle institutionnalisation révolutionnaire? Los trabajadores decimos basta murió conche su madre. Pour ceux qui connaissent le chilien comprendront tout à fait ce que je veux dire. En tout cas, il y a une composante de conscience de classe donc, qui est très très forte, d'opposition, de polarisation qui est au cœur de ces formes d'organisation de pouvoir populaire. Et les secteurs d'opposition le comprennent très bien. Là, on est vraiment portada de la prensa, le président du Sénat démocrate chrétien, et commence à dire l'ennemi, finalement, c'est plus Allende, c'est plus les partis, c'est le pouvoir populaire. C'est l'ennemi du moment, on est à quelques semaines du coup d'État. Les militaires eux-mêmes, Pinochet par exemple, dans ses mémoires, dit l'obsession qui commence à germer parmi les militaires, ils font des cartes, même des cordes industrielles, en disant: s'il y a un coup d'État, c'est là qu'il faut aller en premier lieu. La moneda et les cordes industrielles, voilà les deux. La répression s'abattra évidemment, vous le savez tous, sur Allende, sur le pouvoir central, la moneda, mais aussi très rapidement, dans les périphéries urbaines justement, contre les ouvriers et les cordes industrielles. La résistance sera extrêmement limité, Patricio pourra nous en parler, mais il y a eu plusieurs expériences de résistance armée, mais qui finalement sera limitée à des forces politiques qui viennent au cordon, mais pas les cordons en tant que tels, pas une défense, une autodéfense armée de la classe, qui finalement est restée tout à fait inscrite dans le non à la guerre civile qui dominait à cette époque la gauche chilienne. Et y compris, il y aura des autocritiques très très dures. Par exemple, le PC chilien fera son autocritique sur le vide historique, el vacío histórico, c'est-à-dire l'absence d'une politique envers les forces armées et l'absence d'une vision du rôle des forces armées au sein de la société chilienne. Bon, il faut que je conclue, donc on pourra y revenir. On peut dire qu'il y a un pouvoir en mouvement qui se met en place, il y a une potentialité révolutionnaire très très forte, mais sans que ça débouche sur une rupture totale, aussi bien au niveau de l'État que des formes de médiation historique qui existaient à cette époque. Je vous remercie.